Tandis que le taxi le ramenait chez lui, il songea qu'il lui faudrait probablement attendre longtemps avant de remarquer quoi que ce soit de suspect. Ça n'allait pas apparaître sur les moniteurs dès le premier jour. Il devrait s'armer de patience, se résigner aux longues veilles attentives et se mettre dans la disposition d'esprit adéquate. En revanche, dès l'instant où il remarquerait une attitude suspecte, mystérieuse chez Arctor, celui-ci serait pris sous les feux de 3 projecteurs. Il y aurait comme une 3e vérification de ses coordonnées mentales qui justifierait le temps et les dépenses investies par chacun. Je me demande ce que c'est Baris, que nous ne savons pas. On devrait peut-être l'embarquer et le lui demander. Non, mieux vaut recueillir des matériaux amassés sans le concours de Baris. Sinon, on n'aboutirait qu'à reproduire le dossier en sa possession, qui que soit Baris ou ceux qu'il représente. Mais qu'est-ce que je raconte ? Songea-t-il brusquement. Je déménage. Je connais Bob Arctor. C'est un bon mec. Il ne prépare rien. Du moins, rien de louche. En fait, il travaille secrètement pour la police d'Orange County. Ce qui est probablement...
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammenden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Durst zu den Gefilden hoher Ahnen.
La raison pour laquelle Baris le tient à l'œil. Mais ça n'expliquerait pas que la police d'Orange County fasse de même, surtout au point d'installer tous ses holos et d'assigner un agent à plein temps pour rendre compte de son activité. Non, ça ne l'expliquerait pas. Quelque chose ne colle pas. Il s'en passe davantage, bien davantage dans cette baraque effondrée, dont l'intérieur est envahi par les plâtras et l'arrière-cour par les mauvaises herbes, où la litière des chats n'est jamais changée et où les animaux se baladent sur la table de la cuisine, sans parler des ordures qui s'amoncellent dans tous les coins et que personne n'a l'idée de sortir. Quel gâchis, alors qu'on pourrait faire tant de choses dans cette maison, qui est réellement une bonne maison. Une famille pourrait y vivre, une mère, des enfants. C'était prévu pour, il y a 3 chambres. Un gâchis, un putain de gâchis. Il devrait lui reprendre la baraque, intervenir directement et le déposséder de ses droits. Ils y viendront peut-être. Ça permettrait de rendre la maison à un meilleur usage. Elle ne demande que ça. Elle a connu de meilleurs jours il y a bien longtemps. Mais ce temps-là pourrait renaître, pour peu qu'un autre genre de locataire emménage et se charge de l'entretien. Surtout en ce qui concerne la cour, songea-t-il, tandis que le taxi se rangeait dans l'allée privée tout éclaboussée de vieux journaux. Il paya le chauffeur, sortit sa clé et ouvrit. Dès la porte franchie, il se sentit épié. Les holocaméras le traquaient. Seul chez lui, mais pas seul. Personne à la maison, à part lui. Faux. À part lui et les caméras, insidieuses, invisibles, qui enregistraient tout, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. C'est comme lorsqu'on trace des graffitis dans une pissotière. Souriez, vous venez de participer à la caméra invisible. Et je ne suis pas en train de faire autre chose. Ça fait une drôle d'impression. Il n'aimait pas ça. Il se sentait conscient du moindre de ses gestes. Ce sentiment n'avait fait qu'empirer depuis leur retour, le premier jour, le jour de merde de chien, comme il l'appelait. Il ne pouvait s'empêcher d'y repenser. Et chaque jour, la présence des caméras devenait plus réelle.
« Personne à la maison, je suppose !»
dit-il à voix haute, sachant fort bien que ce serait enregistré. Mais il devait veiller en permanence à ne pas montrer qu'il le savait. C'est comme lorsqu'un acteur se trouve devant la caméra. Il doit jouer comme si elle n'existait pas, sinon tout est fichu. Bon acheté. Et dans cette merde, il n'y a pas de deuxième prise. À la place, on se paie un fondu au noir. Je me le paie. Moi, pas les types derrière les caméras. La chose à faire serait de me tirer en vendant la maison. D'ailleurs, elle s'écroule. Seulement, je l'aime cette baraque. Pas question. Je suis chez moi. Personne ne me videra, quelle que soit la raison qu'ils invoquent. À supposer qu'ils existent. Parce que ça se passe peut-être dans ma tête, tout ça. Le « il » de la paranoïa. Ou plutôt le « ça ». Le « ça » impersonnel. Ce qui m'observe n'a rien d'humain. Pas selon mes critères, en tout cas. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais reconnaître. Tout ridicule que ce soit, C'est effrayant. Une chose agit sur moi ici, dans ma propre maison, sous mes yeux. Vu de l'intérieur des yeux de quelque chose, par le regard de quelque chose, qui, à la différence de Donna aux yeux sombres, ne scie jamais. Que peut voir une caméra? Que voit-elle vraiment? Voit-elle dans la tête? Plonge-t-elle son regard jusqu'au cœur? Voit-elle clairement ou obscurément en moi, en nous, la caméra passive à infrarouge ancien modèle et la caméra holographique nouveau modèle? J'espère qu'elle voit clairement, parce que ces temps-ci, moi je n'y vois plus en moi. Je ne vois que du brouillard. Brouillard à l'extérieur, brouillard à l'intérieur. Pour le salut de chacun, j'espère que les caméras ont meilleure vue. Car si la caméra ne voit qu'obscurément, comme j'y vois moi-même, nous sommes tous maudits. Maudits comme nous n'avons jamais cessé de l'être. Et nous mourrons ainsi, en sachant peu et sachant mal le peu que nous savons. Il prit un volume au hasard sur les rayonnages du living. C'était « La sexualité par l'image ». Il ouvrit le volume au hasard et tomba sur la photo d'un particulier qui tétait d'un air extatique le sein droit de sa partenaire. Celle-ci, visiblement, était en train de gémir. Arctor se mit à parler tout haut, comme s'il lisait un passage du texte, résultat des cogitations de quelques grosses têtes philosophantes d'antan. Tout homme n'aperçoit qu'une parcelle infime de la vérité, et bien souvent, sinon...
Wie steck ich in dem Käberno? Verfluchtes dumpfes Mäuerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Schaben bricht. Beschränke mit diesem Bücherhauf, den Wurmenagen staubbedeckt, den bin's ans Hohe.
Perpétuellement, il se leurre à dessein sur la nature de ce précieux fragment qu'il détient. Une part de lui-même se retourne contre lui et agit comme un autre sujet. Ainsi, l'homme se défait-il de l'intérieur? Un homme à l'intérieur de l'homme, ce qui ne fait point d'homme. Arctor hocha la tête, comme pénétré du sens profond de ces paroles imaginaires, puis il referma le grand volume rouge relié au fer de la sexualité par l'image et le remit à sa place. « J'espère que les caméras n'ont pas pris la couverture, » songea-t-il. « Sinon, j'aurai l'air fin. » Chaque jour, un peu plus déprimé par ce qui arrivait aux gens de sa connaissance, Charles Freck décida d'en finir. Ça ne posait pas de problème dans son milieu. On se contentait d'acheter une bonne quantité de comprimés de Soconal, et tard, un soir, avec le téléphone débranché, afin de ne pas être dérangé, on les faisait descendre à l'aide d'un litre de picrate. Il mit plusieurs jours à choisir les artefacts dont il s'entourerait. Ça lui prit plus de temps que la décision du suicide, et presque autant que l'acquisition du Soconal. On le trouverait sur son lit, avec à son chevet une lettre de protestation inachevée à Exxon, au sujet de la suppression de son abonnement au gaz, ainsi qu'un exemplaire du Rebel d'Ayn Rand. Cela afin de prouver qu'il avait été un surhomme incompris des masses et rejeté par elles, tué en somme, par leur mépris. La lettre accuserait directement le système et donnerait ainsi à sa mort une portée qui dépasserait celle de son destin individuel. En vérité, l'efficacité de cette mort lui semblait plus douteuse que celle des artefacts choisis. Mais quoi, l'un n'allait pas sans l'autre. Il se prépara, tel un animal qui sent sa fin prochaine, et obéit à la programmation instinctive que la nature a inscrite en lui. Au dernier moment, alors que sa vie se refermait sur lui, il changea d'avis sur un point capital. Il décida d'accompagner les Barbitos d'un vin fin au lieu d'un litron de Ripple ou de Thunderbird. En conséquence, il prit sa voiture une dernière fois et se rendit au CAF Trader Joe's, où il choisit finalement un Cabernet Sauvignon Mondavi 1971 qui lui coûta pas loin de $30, tout ce qui lui restait. De retour chez lui, il déboucha la bouteille et laissa le vin respirer un moment, puis but quelques verres tout en contemplant sa page favorite de l'album illustré de la sexualité, celle où la fille chevauche son compagnon. Ensuite, il plaça le sac de plastique contenant les Barbitos sur sa table de chevet, se munit du rand et de la lettre inachevée à Exxon, et s'allongea. Il essaya de penser à une grande phrase définitive, mais ça ne venait pas. Encore que l'évocation de la fille chevauchant son partenaire, il se versa un verre de Sauvignon et descendit tous les Barbitos d'un coup. La chose accomplie, la lettre et le rebelle sur la poitrine, il se renversa en arrière, attendit. Seulement, il s'était encore fait avoir. Ses comprimés n'étaient pas des barbituriques, mais un psychédélique titillant d'un type qu'il ne connaissait pas, sans doute un mélange. En tout cas, un truc nouveau sur le marché. Au lieu d'étouffer peinardement, Charles Freck se mit à triper. Il prit la chose avec philosophie. C'est toute l'histoire de ma vie. L'éternel baiser. Il fallait bien s'y résoudre. Vu le nombre de comprimés qu'il avait descendus, il allait se payer un voyage de première. L'instant d'après, un être surgit d'entre les dimensions se tenait près de son lit et le regardait d'un sale œil. Des yeux, l'être n'en manquait pas. Il en avait sur toute sa personne. Il mesurait plus de 2 mètres. Il était sapé dans le vent, du grand luxe, et il trimbalait un énorme rouleau de parchemin. « Tu vas me lire la liste de mes péchés ?» soupira Charles Freck. L'être hocha la tête et brisa le sceau du parchemin. Sur son lit, Freck était sans défense. « Et ça va prendre 100 000 heures !» L'être d'entre les dimensions braqua sa batterie d'yeux sur Freck et prit la parole. « Nous ne sommes plus de ce monde. Des catégories inférieures telles que l'espace ou le temps ne s'appliquent plus à toi. Tu as été élevé jusqu'au royaume de la transcendance. Tes péchés te seront lus sans répit. Des équipes se relayeront et cela durera toute l'éternité. La liste ne finira jamais. » Apprenez à connaître votre dealer, songea Charles Freck, qui aurait bien voulu reprendre cette ultime demi-heure de son existence. 1000 ans plus tard, il était toujours sur son lit avec la lettre et le bouquin d'Ayn Rand. Il écoutait la liste de ses péchés. Les types en étaient à son entrée en 11e. Il avait 6 ans. 10 000 années plus tard, ils atteignaient la terminale, l'époque où il avait découvert la masturbation. Il ferma les paupières, mais en vain. Il apercevait toujours l'être couvert d'yeux qui, du haut de ses 2 mètres et quelques, lisait le parchemin sans fin. « Ensuite, » annonçait-il. « Au moins, le vin était correct, » songea Charles Freck.